Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, nous recevons Gilles Marchand pour un incroyable roman d'amour et de guerre. Visite de bibliothèque, bien sûr, celle de Serge Lama, aujourd'hui mythique. Et puis, à la fin de l'émission, j'ai réuni tout le monde, libraire compris, avec des romans encore, mais aussi de la bande dessinée et peut-être bien un beau livre. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Bonjour Gilles Marchand.
Bonjour.
Vous publiez donc Le Soldat désaccordé aux éditions Les Forges de Vulcain, magnifique maison d'édition, un texte court, 200 pages à peu près, très soutenu par les libraires. On est en 1914, c'est un soldat qui raconte, et je vous laisse lire le premier paragraphe qui, je trouve, donne bien le ton général.
Je n'étais pas parti la fleur au fusil. Je ne connais d'ailleurs personne qui l'ait vécu ainsi. L'image était certes jolie, mais elle ne reflétait pas la réalité. On n'imaginait pas que le conflit allait s'éterniser, évidemment. Personne ne pouvait le prévoir. On croyait passer l'été sous les drapeaux et revenir pour l'automne avec l'Alsace et la Lorraine en bandoulière. De retour pour les moissons, les vendanges et de nouveaux tournevis à l'usine. Pour tout dire, ça emmerdait pas mal de monde, cette histoire. On avait mieux à faire qu'aller taper sur nos voisins. Pourtant, on savait que ça viendrait, on nous avait bien préparé à cette idée. À force de nous raconter qu'ils étaient nos ennemis, on avait fini par le croire. Alors quand ils sont passés par le Luxembourg et la Belgique, il n'y avait pas grand monde pour leur trouver des circonstances atténuantes. On était nombreux à être volontaires pour leur expliquer que ça ne se faisait pas trop d'aller envahir des pays neutres.
J'aime bien, parce que c'est un style très oral, sans être non plus argotique. Ça sonne très juste, voilà, c'est ça ce que je veux dire, avec une fausse légèreté. Mais en vous écoutant lire, je ne sais pas, est-ce que c'est ça, fausse légèreté, c'est ce que vous vouliez ou pas forcément?
Moi, j'aime beaucoup cette idée de fausse légèreté, d'aborder des questions difficiles, justement en donnant une espèce d'apparence de légèreté, de manière... Je pense que cette légèreté permet de raconter des histoires qui sont beaucoup plus terribles que ce qu'elles ont l'air de raconter dans les mots.
Le type qu'on vient d'entendre, bon, c'était vous, mais en fait, le narrateur, c'est un soldat. Mais le problème, c'est qu'il a perdu très vite une main au combat. C'est tout de suite moins pratique pour se battre, mais il fait ce qu'il peut, en fait. Il est quand même resté derrière pour aider comme il pouvait. Et puis, après-guerre, il devient enquêteur. Il était chauffeur de tramway, le pauvre, donc sans sa main, c'est plus compliqué, même s'il va quand même conduire des camions pendant la guerre, parce qu'on va lui bricoler un petit truc pour qu'il puisse tenir son volant, c'était une époque. Et puis finalement, il devient enquêteur pour retrouver des soldats disparus ou les réhabiliter quand ils se sont fait fusiller pour des mauvaises raisons. Et en fait, ça se faisait beaucoup à l'époque.
Alors ça se faisait beaucoup pour plusieurs raisons. Alors il y a, là, dans le livre, je parle d'une dénommée Blanche Maupas qui a réellement existé, qui a été une veuve de guerre qui était dont le mari a été fusillé pour l'exemple parce que c'est l'affaire des caporaux de soins en 1915 et ils ont une compagnie, une escouade qui a refusé d'aller se battre parce que ça tirait trop. En fait, tous ceux qui sortaient de passer par-dessus le parapet se faisaient tuer immanquablement et donc il y a eu une espèce de... C'était pas vraiment une rébellion mais ils se sont dit non mais là ça sert à rien, on peut pas, il n'y a aucun moyen de passer la tête par-dessus le parapet. Et donc ils ont fusillé ces soldats. Et c'est vrai que dans toutes les années 20, la question des fusillés, pour l'exemple, des déserteurs, ça posait beaucoup de questions, et notamment une question très pratique qui était la question des pensions de guerre. Oui. C'est-à-dire, une veuve de fusillés par l'armée française ne touchait pas de pension de guerre. Bon, là, en l'occurrence, dans l'exemple de Blanche Maupas, elle se battait aussi pour l'honneur de son mari et des trois autres caporaux qui ont été fusillés en même temps que lui.
Mais je ne savais pas qu'elle existait, Blanche Maupas, parce que bon, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est un roman, un vrai, et en même temps, on sent qu'il y a des choses réelles là-dedans, sans que ça sente non plus son placard à archives, et ça, mine de rien, c'est très compliqué à faire, que ça ne sente pas non plus la poussière de l'archive.
Alors c'était un petit peu tout l'enjeu du livre, hein. C'est-à-dire moi j'ai commencé par lire déjà tous les romans, enfin... une bonne partie des romanciers qui avaient connu la guerre. Donc il y a Dorgelès, Éric Maria Remarque,
Genevoix,
bien sûr, Barbus, Sandrars.
Ah, Barbus.
Voilà.
Il est dans le roman.
Tout à fait. Et donc j'avais envie de me rapprocher de leur vocabulaire, de leur manière de raconter les histoires, de m'accaparer même certains tics de langage qu'ils avaient. Et ensuite, je me suis promené un petit peu sur les... Enfin, j'ai lu des livres d'historiens, et je me suis promené sur les sites de la Première Guerre mondiale, dans les musées, notamment Blanche Maupas, et il y a toute une partie du musée de Meaux, du musée de la Grande Guerre de Meaux, qui lui est consacré, donc on peut voir son histoire est racontée comme ça. Donc,
je ne savais pas qu'elle existait, parce qu'elle est très bien dessinée dans le roman, même si elle apparaît qu'au début, en fait, elle lui enseigne les méthodes, les procédures, les petites astuces, parce que lui, donc, passe son temps à enquêter. C'est assez pratique pour lui, parce que d'abord, c'est un ancien soldat, donc quand il croise d'autres soldats qui peuvent le mener à une autre piste, etc., ils lui font un peu plus confiance. Il est blessé de guerre, donc
il est respecté.
Il y a plus de compassion, plus de respect. Et un jour... il est convoqué, enfin on lui propose un travail, c'est Jeanne Joplin qui est persuadée que son fils qui était à la guerre mais qui n'est pas revenu est vivant. Pourquoi ? Parce qu'elle le sent, c'est tout. Et aucune nouvelle depuis 1916, mais il n'a pas pu mourir, dit-elle, tout simplement parce qu'il était trop jeune pour ça.
Ce qui n'est pas un grand argument.
C'est pas un argument, mais on va commencer l'enquête avec lui. Mais avant, j'ai bien aimé cette formule. Parce que je me dis qu'il y a eu, bon, je ne sais plus combien il y a eu de morts et tout, mais vous le dites à un moment, le nombre de disparus, on comprend très bien ce qu'elle veut dire. Quoi. C'est inimaginable.
Oui, c'est ça qui était intéressant et qui est extrêmement saisissant quand on se penche sur cette période-là, c'est que c'est effectivement inimaginable. Ce sont des gens qui ont connu, pour ceux qui étaient au front, qui ont connu l'apocalypse, pour ceux qui sont restés à l'arrière, et notamment pour les femmes qui sont restées à l'arrière, qui faisaient les travaux des hommes. Et dans les champs, par exemple, les femmes faisaient les travaux des hommes et les travaux des bêtes, parce que les bêtes aussi sont parties au front. Et donc, il y a toute une société qui a été mise, qui a été complètement démontée, déstructurée pendant 4 ans. Et puis, ce sont des enfants qui sont partis, et des enfants qui ne sont pas revenus ou qui sont revenus traumatisés, qui sont venus blessés, et qui sont revenus gueule cassée. Certains qui n'étaient plus du tout réinsérables dans la société. Et donc, elle est comme tous ces gens qui sont restés à l'arrière, qui avaient du mal à comprendre ce qui se passait, qui ne pouvaient pas accepter cette réalité que son fils était mort à la guerre.
Et alors, il l'écoute. Et puis bon, lui, c'est son travail, il faut qu'il paye le loyer, mais il ressent quand même un grand sentiment de lassitude, parce qu'il sait très bien ce qu'il en est. Son fils est mort, comme on lui a dit en 1916, et c'est tout. Il n'y aura rien à trouver. Mais il commence quand même à chercher, et il va aller de contact en contact, et finalement retracer le parcours d'Émile, puisque c'est lui qu'il cherche. Et il commence par Jean Morisseau. C'est une question un peu annexe, mais Jean Morisseau, et après il y en aura d'autres. Comment vous avez trouvé les noms des personnages ? Il faut que ça sonne quand même au début du siècle, quoi.
Alors, là,
Jean Morisseau, c'est parfait. Je
vais révéler un secret, c'est que tous mes livres précédents se passent dans les années 70-80 et avec des personnages qui écoutent le même genre de musique que moi, c'est-à-dire les Beatles, les Doors, les Stones, etc. Et là, pour la première fois, je ne pouvais pas créer des personnages qui écoutaient la même musique que moi. Donc Jean Morisseau, c'est une version au début...
Ah, John Morrison,
c'est
Jim
ça,
Morrison.
C'est la version début 20e de Jim Morrison, comme il y a un certain Paul McCartney aussi.
J'avais pas fait voilà.
Et Jeanne Joplin.
Oui, voilà. Alors ça, oui, je m'étais dit à la fin, il va y avoir une sorte de poème de Janis Joplin qu'on va... D'accord. Voilà. Mais j'avais fait une chronique en plus en parlant de Jeanne Joplin, et il y a quelqu'un qui était autour de la table, je ne sais plus qui m'a dit, mais... Il y a un rapport avec Janis Joplin, et je me suis dit, tiens, bah oui, c'est vrai.
Oui, j'ai caché comme ça quelques chanteurs et quelques musiciens des années 60 et 70.
Parfait, ben on retrouve toute cette clique dans un instant.
La voix est libre. Nicolas Caro.
La voix est libre continue toujours avec Gilles Marchand pour Le soldat désaccordé aux forges de Vulcain. D'ailleurs, on reviendra peut-être sur le titre, mais on ne pourra pas trop en dire, parce que c'est à la fin qu'on comprend ce côté désaccordé de ce soldat. C'est donc l'histoire, le narrateur. C'est un enquêteur qui a fait la guerre de 14 et qui ensuite s'est reconverti comme détective, en fait, privé, pour retrouver soit des soldats disparus, soit réhabiliter leur mémoire à la demande des familles. Un jour, il tombe sur une dame, Jeanne Joplin, qui lui demande de retrouver son fils, qui est censé être mort en 1916, pendant la guerre, mais elle est sûre que non, et donc il faut le retrouver. Et donc, notre enquêteur va de contact en contact pour essayer de retrouver sa trace. Petit à petit, il arrive à glaner quelques informations. Et à ce moment-là, à chaque fois, on replonge dans la guerre, comme une sorte de flashback. Et on en apprend aussi beaucoup sur la guerre. Et notamment, on croise Apollinaire, par exemple, qui était sur le champ de bataille.
Oui, on croise Apollinaire, on croise Éluard. Moi, j'avais envie qu'il y ait un peu de poésie. J'avais envie qu'on croise des poètes. Voilà, il y a plus de poètes que de maréchaux, finalement, dans mon livre. Et j'aime bien cette idée parce que au début, j'avais commencé un petit peu à me faire des fiches d'histoire pour me souvenir Foch, Joffre, Nivelles, etc. Savoir qui venait, après qui, quel était dans l'ordre, qui était à Verdun, qui était dans la Somme, etc. Et je me suis rendu compte en cours d'écriture que c'était l'histoire des poilus que j'avais envie de raconter. C'était les hommes qui étaient là, plus que leurs dirigeants, quoi. Et donc, les poètes sont arrivés comme ça, assez naturellement, parce que dans ce désordre et dans cet apocalypse d'acier et de métal, je trouvais qu'un peu de poésie, ça pourrait faire passer la pilule, quoi.
Et il y a des moments hyper poétiques dans le roman. Émile lui-même, donc le jeune homme qu'on recherche, était un poète ou est un poète, on ne sait pas encore. Et pendant la guerre, dans les tranchées, à un moment, il fabrique un orgue avec ce qu'il a trouvé, avec des obus et tout. Et il y a un de ses camarades des tranchées, ses supérieurs d'ailleurs, je crois, qui regarde ça et qui se met à pleurer et à rire en même temps. Et ça crée une scène d'une beauté incroyable. Vous l'avez glanée quelque part, celle-là ?
Non, celle-là, je l'ai glanée au fin fond de mon cerveau. Parce que j'avais envie de mettre de la musique, parce que ce personnage, parce que les poilus étaient privés de tout, y compris de musique. Alors, il y a des exemples, on voit des instruments qui ont été bricolés comme ça, avec des casques, avec des bouts de planches qui traînaient ici ou là. Et bah, au musée d'Homo, encore une fois, il y a des exemples d'instruments comme ça. Et là, j'avais imaginé ce personnage qui était perdu et à qui son piano manquait. Et donc, le soldat Joplin qui, pour lui faire plaisir, fait une espèce de simulacre de grand orgue pour qu'il puisse faire semblant de jouer.
Qui, dans le civil, d'ailleurs, joue de l'accordéon un peu.
Oui, tout à fait.
Il y a aussi la fille de la lune, ouais, qui est en elle-même très poétique. C'est une fille qui apparaît, selon les témoignages de certains soldats, sur les champs de bataille. Même question, est-ce qu'on a vraiment eu ces témoignages ? On sait qu'on la retrouve dans certains livres qui parlent de la guerre.
Alors, on la retrouve, mais alors c'est un petit peu le fruit du hasard. On la retrouve dans un livre de Barbus, dans Le Feu. Alors, ce n'est pas vraiment la fille de la lune. Il décrit à un moment une jeune femme qui traverse la rue avec des yeux de biche éclairés par la lune. Et alors ça, je ne l'avais pas encore lu quand j'ai commencé cette histoire, parce que cette fille de la lune, c'est un petit peu le point de départ de mon roman. J'avais envie d'imaginer cette présence féminine dans l'endroit le plus terrible du monde, dans le No Man's Land, à l'endroit où éclatent, où les gens, les soldats meurent les uns après les autres. Et j'avais envie, parmi toutes, parce que j'ai lu beaucoup de légendes, beaucoup de racontars, de choses que se racontaient les soldats pour tenir, des rêves, des prédictions, des anges, les fameux anges de Mons, les Anglais, ou l'apparition de Jeanne d'Arc sur les bords de Marne. Et donc, les légendes ne manquaient pas, et je sais pas, moi j'avais envie d'en trouver une autre, peut-être plus féminine, et qui se rapporterait justement à l'imagination, à tout ce qui manquait à ces soldats qui avaient besoin d'affection, d'amour et de rêves, quoi.
Et donc, on croise des soldats qui disent « Moi, j'ai vu la fille de la lune. Ah, elle est très, très belle et tout. » Et évidemment, ils parlent tous plus ou moins de leur fiancée qu'ils ont eue ou qu'ils ont encore, à qui ils écrivent. Et Émile, on se rend compte assez vite, parce que bon, ça fait bientôt un quart d'heure qu'on parle. On n'a pas encore dit que c'est d'abord peut-être un roman d'amour, en fait, ce livre, Le soldat désaccordé. Et donc, Émile, lui, était fiancé avec Lucie Himmel, et elle est alsacienne. Et le problème, c'est qu'il lui écrit pendant la guerre, il lui envoie des lettres en Alsace. Mais l'Alsace, c'est l'ennemi. Donc les lettres, potentiellement, ne peuvent pas arriver là-bas.
Les lettres n'arrivent pas.
Et vous écrivez quelque chose, parce que vous faites une petite digression sur le statut de l'Alsace, qui est un peu compliqué à l'époque, évidemment, français, allemand, on ne sait plus trop bien là-bas. Et on dit, on a tué votre mari, mais bonne nouvelle, vous êtes de nouveau française, madame. Ça crée des situations complètement ubuesques.
La situation de l'Alsace au lendemain de la Première Guerre mondiale était très compliquée à gérer. Et notamment, l'exemple que je prends dans le livre, c'est l'exemple des monuments aux morts. Qu'est-ce qu'ils pouvaient écrire sur les monuments aux morts ? Parce que mort pour la patrie, oui, mais laquelle ? Parce que l'Alsace était allemande au moment de la guerre. Et les soldats, enfin les hommes alsaciens ont dû se battre contre les Français. Alors, il y a eu beaucoup de désertions, mais ça posait un vrai souci politique et humain. Parce que les soldats français allaient partait pour délivrer l'Alsace et la Lorraine et la Moselle, mais sauf que pour une bonne partie d'entre eux, ils étaient nés allemands et ils n'avaient rien demandé, ils ne voulaient pas être délivrés spécialement.
Bon, alors, il faut qu'on parle un peu de cette histoire d'amour. Est-ce que vous pouvez nous raconter leur rencontre qu'ils avaient 14 ans?
Ils se sont rencontrés quand ils avaient 14 ans. Alors, Lucie était une jeune servante dans une maison en France, de l'autre côté de la frontière, parce que ses parents étaient attachés à la langue française et voulaient qu'elle ait une place en France. Et Émile, fils de bonne famille, allait chez son oncle et sa tante. Ils se sont rencontrés au cours d'un été, au tout début du XXe siècle, et ils sont tombés assez rapidement, follement amoureux.
Même si au début, il ne la regarde même pas.
Au début, il ne la voit pas. Ça dure 3 semaines, il ne la voit pas. Et le jour où il la voit, le temps s'arrête, littéralement. Et ils vont se retrouver chaque été. Sauf que, évidemment, ça ne se passe jamais aussi facilement dans les histoires d'amour. La mère d'Émile ne va pas voir du tout d'un bon œil cette relation de son fils, riche héritier d'une bonne famille industrielle, avec cette petite servante alsacienne.
Et la famille de Lucie, d'ailleurs, enfin ses parents, ne le voit pas non plus d'un très bon œil, parce qu'ils se disent ça va nous coûter de l'argent, cette histoire, elle va tomber enceinte et tout, ça va nous.
Ils voient le danger arriver, c'est pas une histoire qui est possible pour eux, c'est pas dans leur galaxie, quoi.
Vous aviez l'idée d'écrire un roman de guerre, une enquête comme ça pour retrouver un soldat, et puis en fait l'histoire d'amour est arrivée pour les besoins de l'intrigue, ou c'est l'inverse?
Je pense que c'est venu à peu près en même temps, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est cette fille de la Lune qui est vraiment le point de départ du livre. La question que je me suis posée, c'était est-ce que ce serait son fils qui partirait à la recherche de sa mère, qui serait la fille de la Lune, ou est-ce que ce serait son fiancé qui partirait à la recherche de sa fiancée. Bon, en l'occurrence, c'est plutôt la deuxième version.
Et on repart à leur recherche dans un instant.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, le retour, toujours avec Gilles Marchand. Pour Le Soldat désaccordé aux éditions Les Forges de Vulcain. Gilles Marchand, j'ai expliqué, c'est l'histoire d'un ancien soldat de la guerre de 14 qui a perdu sa main au combat, qui est devenu enquêteur pour retrouver des soldats disparus ou éventuellement les réhabiliter. Un jour, on lui propose un travail. C'est Jeanne Joplin qui lui demande de retrouver son fils Émile, qui est censé être mort en 1916, en tout cas qui ne donne plus de nouvelles depuis 1916. Et elle est sûre qu'il n'est pas mort parce qu'il était trop jeune pour mourir, et c'est tout. Et en fait, il part comme ça, il s'aperçoit qu'il y avait une histoire d'amour parce que Émile écrivait tous les jours à sa mère, certes, mais aussi à Lucie. Et il revient voir Madame Joplin, un peu furieux, quoi, en lui disant « Vous voulez que je le retrouve ?» Et vous ne me dites même pas qu'il avait une petite fiancée. Et elle est dans le déni total. Là. Et là, il y a un côté psychanalytique dans le roman assez, assez souligné.
Oui, c'est vrai que Jeanne Joplin n'est pas le personnage le plus sympathique du roman, parce qu'elle lui met même des bâtons dans les roues, puisqu'elle refuse catégoriquement d'envisager que son fils ait une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre.
Mais en même temps, elle veut absolument qu'il retrouve son fils. Je veux dire, elle est sincère là-dessus. Il y a une beauté là-dedans aussi. En fait, vous cherchez la beauté partout, j'ai l'impression. D'ailleurs, il y a un moment, un personnage qui dit que l'amour, c'est l'espoir de trouver un peu de beau dans ce merdier.
Oui, je pense que l'amour, c'est ce qui te permet quand même de tenir dans toutes les circonstances, quelles que soient les épreuves qu'on est amené à traverser dans notre vie, ce qui nous accroche, ce qui nous permet de s'accrocher, c'est souvent l'amour, plus que toute autre chose, plus que l'amitié même, je pense.
Au fil de son enquête, donc de contact en contact, il arrive à un moment dans un hôpital psychiatrique où il est question d'électrochoc. Et en fait, la psychiatrie a à voir beaucoup avec la Première Guerre mondiale. Je me souviens qu'on avait récompensé avec le prix européen l'année dernière le soldat Ulysse, qui parlait d'un soldat qu'on a retrouvé, qui avait perdu la mémoire, qui était devenu amnésique et qui en fait a fini à Sainte-Anne. Et tout le monde pensait que c'était son fils disparu parce que tout le monde voulait absolument retrouver son soldat chéri, quoi. Et comme lui avait perdu la mémoire, d'une certaine manière, il pouvait appartenir à tout le monde. Mais ce qui était intéressant aussi, c'était le rôle du psychiatre, qui avait un rôle plutôt positif dans ce roman-là. Chez vous, on tombe sur un médecin un peu fou, en fait.
Oui, alors il y avait les deux, le soldat Ulysse, donc un soldat qui a vraiment existé. Et c'est vrai qu'il y avait la psychiatrie a été complètement bouleversée parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'obusite, qui était un trouble qu'on imaginait était peut-être lié au souffle permanent des bombes. des obus. Et donc, on ne savait pas pourquoi est-ce que les soldats revenaient comme ça dans un état catatonique, hurlaient au milieu de la nuit, avaient des paralysies sans que rien dans leur corps ne permette de comprendre l'origine de cette paralysie, des soldats qui n'arrivaient plus à se redresser, à se relever. Et parmi eux, on craignait qu'il y ait des simulateurs, des gens qui veulent retourner à l'arrière parce qu'ils n'en peuvent plus de ces combats perpétuels. Et donc, on les traquait et certains psychiatres se sont dit que les électrochocs, ça permettrait de débusquer les simulateurs.
Et ils devenaient fous aussi parce qu'ils assistaient à des scènes complètement folles. Là, justement, c'est drôle parce que je tiens votre livre dans la main et j'avais ouvert à une page au hasard, comme ça, et je vous lis l'extrait. « Un cheval est passé juste au-dessus de nous. Il avait le ventre ouvert, n'est-ce pas? Je me souviens que je m'étais demandé comment il pouvait aller aussi vite avec un trou aussi large. Il y avait des éclairs, des obus qui miaulaient au-dessus de nous, des fracas de métal et de bois. Une partie du boyau dans lequel on se trouvait s'est effondrée. » Il y a comme ça d'autres scènes et il y a des petits détails, mais qui font tout le sel aussi. Vous dites à un moment que les soldats cherchent une table hors des tranchées, ils cherchent une table pour manger. Ça devient une obsession chez eux de trouver une table.
Oui, parce que c'est un petit peu l'idée qu'ils se font de la civilisation, de ce qui leur manque, à force de manger assis dans la boue, par terre, sur un parapet, sur une planche. Ce qui leur manque à certains, c'est les tables. Et on le retrouve ça dans certaines lettres, dans certains romans, que dès qu'ils allaient à l'arrière, ils dormaient dans des granges, ils dormaient un petit peu partout, mais ils se battaient, ils étaient prêts, ils dégondaient des portes pour avoir l'illusion de retrouver une vie un petit peu normale, une vie où on pose une assiette et un verre sur une planche en bois.
Alors, Émile, on l'a dit tout à l'heure, était poète. Et donc, il y a des poèmes dans le roman que vous avez écrit, j'imagine.
Oui, oui, oui.
Parce qu'il raconte aussi une partie du roman. Mais est-ce que vous avez trouvé des poèmes dans toute votre documentation aussi? Ou c'est là, c'est vraiment vous qui avez pris le parti de cette poésie?
Alors, il y a un recueil, je crois, enfin, pas je crois, sûr, qui est publié chez Poinceuil, des poèmes de la Grande Guerre.
Qui parle de la guerre.
Qui parle de la guerre. C'est vrai que, après, dans certaines lettres aussi de Poilu, il y a des lettres qui sont très poétiques, dans certains passages de romans aussi. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai écrit ces poèmes-là, c'est peut-être parti d'un passage en alexandrin, ou parce que ce personnage était un poète et il fallait, et puis qu'il était amoureux, qu'il était jeune, donc il fallait qu'il y ait un petit peu la fraîcheur de l'amour, des débuts de relations d'amour où on écrit des poèmes. Et c'est vrai que ça m'a bien plu d'essayer de me mettre avec les mots de cet Émile, pardon, Joplin.
Et les poèmes d'ailleurs font partie de la résolution de cette énigme. Qu'est devenu Émile et qu'est devenu Lucie aussi? Parce qu'évidemment, il ne la trouve pas tout de suite, ce serait trop facile. Est-ce qu'il va la trouver d'ailleurs? On ne sait pas. Ça, il faudra lire pour savoir. Mais juste, il nous reste 2 minutes et j'aime bien dans cette partie ouvrir un peu la porte de la cuisine de l'écrivain, savoir comment il travaille. Est-ce que vous avez une discipline d'écriture? Est-ce que tous les jours, il faut écrire tant d'heures, y passer devant son ordinateur? Alors, ou son stylo d'ailleurs?
Tant d'heures, je sais. En fait, il y a un gros travail d'écriture qui se fait d'abord dans la tête, quand on marche, quand on prend un bus, dans les transports, etc. Mais s'il faut parler de discipline, moi, j'ai une toute petite discipline, c'est de m'obliger une demi-heure par jour. Alors, c'est très court, une demi-heure, c'est un sprint d'écriture. C'est la demi-heure minimum, hein, évidemment, quand je suis en train d'écrire un livre, ça, c'est plutôt plusieurs heures. Mais cette demi-heure que je m'octroie, en général, vers 13 heures. Et c'est une demi-heure, je garde ou je jette, je modifie, mais ça permet, je crois que c'est Stendhal, je ne suis pas sûr, qui disait une page par jour, génie ou pas génie. Et j'aime bien cette idée d'avoir un moment, parce qu'une demi-heure, on peut pas, on peut toujours la glisser quelque part. Si on se dit qu'on écrit 2 heures par jour, il y aura toujours des moments où on n'arrivera pas à les caser, ces 2 heures, parce qu'on a tous des vies qui sont bien pleines. Et une demi-heure, il n'y a aucune raison, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'écrire pendant cette demi-heure-là.
Ordinateur ou papier?
Ordinateur.
Pourquoi?
Parce que je suis extrêmement désordonné et que j'ai essayé d'avoir des petits carnets dans lesquels je prenais des notes. Mais que j'égare tous mes carnets, donc je me sers de... J'ai des brouillons, mais des brouillons numériques.
Vous écrivez en silence, ou est-ce que vous pouvez écrire en musique, ou vous devez écrire en musique, ou est-ce que vous êtes capable d'écrire dans les bistrots, dans le métro?
Je peux écrire dans des lieux où il y a du bruit, mais pas de musique, parce que je tiens à avoir mon propre rythme de phrase. Et si j'écoute de la musique, je vais obligatoirement rentrer dans le rythme de la chanson que je suis en train d'écouter. Donc j'écris vraiment sans musique, pour que ce soit ma musique à moi, tout simplement.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de musical dans ce roman qui s'appelle donc Le soldat désaccordé aux forges de Vulcain. Merci beaucoup Gilles Marchand.
Merci beaucoup Nicolas Caro.
Dans un instant, visite de bibliothèque, nous partons chez Serge Lama.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre, l'heure de visiter une bibliothèque a sonné. Serge Lama, mythique quand même. Il fait ses adieux à la scène, mais il sort un nouvel album baptisé très simplement « Aimer ». Ça faisait longtemps que je voulais le rencontrer pour parler bouquin parce que j'avais entendu dire qu'il était un grand lecteur. Et ben, je ne m'étais pas trompé. Bonjour Serge Lama.
Bonjour Nicolas.
Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Je suis très honoré.
Merci de me recevoir chez moi.
Je suis entré et la première chose qui frappe, donc on est dans votre salon, il y a un piano droit. Et puis il y a tout autour du salon des livres en pagaille. Énormément de livres, mais hyper bien rangés. J'ai dû visiter 200-250 bibliothèques. J'ai jamais vu des livres aussi bien rangés.
Oui, mais vous avez pas Luana Santonino qui est autour, parce que elle c'est une rangeuse. Hein, je vous dis, parce que moi je peux vous dire que je suis assez très très bordélique. Hein. Personnellement, si j'étais tout seul, là, je me laisserais bouffer par les livres, comme je vois certains mecs là, qui aiment les livres, qui sont mangés par les... Ouais, je serais assez comme ça. Mais Luana, on vit quand même dans un appartement. Bon, elle range les trucs, elle fait... Bon, voilà.
Ah ouais, c'est au cordeau. Alors, puis tout est ensemble, quoi. Je veux dire, toutes les œuvres des auteurs sont classées ensemble.
Ah oui, non, mais ça fait ça bien, oui.
Et puis alors, oui. Chose étonnante, je suis arrivé... Il y avait tout un pan de mur à ma droite qui était avec une bibliothèque ouverte. Et puis, en face de moi, une petite bibliothèque entourée de miroirs. Et en fait, on a ouvert les miroirs. Il y a encore des livres derrière, quoi.
Eh oui, derrière le miroir. Derrière le miroir,
encore le miroir. Comme chez Lewis Carroll, bien sûr.
Oui,
de l'autre côté du miroir. Carole, oui. Quand est-ce que vous lisez? Depuis quand vous lisez? Quelle est l'importance des livres pour vous?
Ah ben, je lis depuis l'âge de... J'ai d'abord lu les livres de comme Jules Verne, comme tout le monde, à 8 ans, 9 ans, etc. Mais très, très vite, j'ai été dans des livres beaucoup plus importants. L'être un jeune poète, par exemple, de Rainer Maria Rilke, j'ai lu ça à 11 ans et demi, ce qui fait que j'ai lu Rainer Maria Rilke. C'est là que j'ai lu Camus. J'ai commencé à lire Camus à ce moment-là.
Qu'est-ce que a changé Rilke pour vous?
Quoi?
Qu'est-ce que ça a changé pour vous quand vous avez lu Rilke? Parce que c'est une lettre à un jeune poète, donc c'est des conseils d'une certaine manière.
Ah ben oui, mais je lisais ça, c'était mon livre de chevet. J'avais l'impression que le livre m'était adressé. J'avais l'impression que les conseils qu'il donnait à ce jeune poète, qui était évidemment d'une hauteur, d'une grande... Dans la langue merveilleuse de Rainer Maria Rilke, évidemment, c'était du haut de gamme. Mais à cet âge-là, j'étais assez fonceur et je me disais, c'est à moi que ça s'adresse. Et j'ai lu et relu. C'est un livre que j'ai lu et relu. Il y a des livres que j'ai relus, mais celui-là, j'ai vraiment relu au milieu des autres choses que je lisais. Ce qui fait que je foutais rien à l'école parce que je lisais tout le temps.
Ça va, c'est pas mal quand même. J'aime bien parce que vous êtes bon élève et j'ai découvert en entrant aussi sur la table du salon posée une petite feuille A4 avec 6 auteurs et 6 livres dont vous voudriez parler absolument. Donc j'aime beaucoup. Mais alors, ce que je préfère encore plus, c'est que ça commence par Camus. 2 points, le premier homme, rayé. Au-dessus, l'étranger, finalement. Et entre parenthèses derrière, toute l'œuvre.
Oui, c'est ça. C'est parce que c'est ce que j'ai dit. Luana, avec Camus, je suis embêté parce que Camus, c'est mon idole. Et c'est vrai que le premier homme est un très, 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 très grand livre. Mais l'étranger, c'est un livre incroyablement... Ça n'a pas l'air... Ce qui est extraordinaire dans l'étranger, c'est qu'on n'a pas l'impression... C'est comme un polar. On n'a pas l'impression que c'est un livre de cette importance. Et puis, plus on le relit, plus on prend conscience que Camus était tout dedans. C'est-à-dire qu'il y avait tout, il y avait absolument tout Camus dans ce livre-là. Il y avait ce combat pour l'homme qu'il mène, cette solitude qu'il a eue toute sa vie. Ben, parce que c'est une solitude peuplée de femmes, Camus, pour moi. Ça, c'est mon idée que j'ai. C'est un type qui a vécu avec un désir sexuel énorme et un appétit sexuel énorme. Et il a... Ce qui sortait de sa tête, c'était très difficile, c'était un travail de moine. Et d'ailleurs, il parlait souvent de monastère, bizarrement, Camus. Hein. Il disait, genre, je vais aller dans un monastère, parce qu'il en avait marre du bruit des gens qui s'engueulaient, des problèmes qu'il avait autour de lui, etc. Et il avait cette tentation du monastère qu'ont eu beaucoup d'écrivains, et qu'il eut très tôt. On ne sait pas ce qui serait advenu de Camus s'il avait vécu plus longtemps. Alors voilà, c'est l'étranger, il y a tout ça, parce qu'il y a la bagarre avec le curé, il y a une bagarre terrible avec le curé qui l'insupporte, il pense à sa mort, qui quand même lui fait peur, même s'il pense à vivre ses dernières minutes jusqu'à la dernière goutte. C'est-à-dire vivre la vie jusqu'à... C'est un livre extraordinaire. Mais le premier homme, pourquoi j'ai barré le premier homme ? Parce que ce qui m'embête, c'est que je ne suis pas certain que ce soit Camus seul. C'est-à-dire que, vu qu'ils ont piqué ça dans l'accident.
Oui.
Alors, c'était une épreuve.
C'était un manuscrit qu'il avait quand il est mort dans la voiture.
Quand il est mort dans l'accident, hein, qu'ils ont retrouvé, éparpillé les feuillets. Tout ça. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un rewriter qui a écrit derrière ? Et c'est toujours l'angoisse que j'ai de me dire, est-ce que c'est vraiment Camus ? Parce que c'est vrai que c'est un livre formidable, énorme.
Et ça a commencé quand, cette passion pour Albert Camus ?
Oh, je vous dis 11 ans et demi, 11 ans et demi tout de suite, parce que,
l'étranger,
ça vous harponne.
Vous n'êtes pas revenu à Camus plus tard, quoi, depuis vos 11 ans et demi.
Non, je suis revenu à Camus, bien sûr que je suis revenu à Camus. J'ai relu certains...
Oui, mais je veux dire, vous ne l'avez pas lu incidemment à 11 ans et demi, puis vous l'avez oublié, puis vous l'avez relu ensuite.
Camus, puis l'émotion de cette mort tragique, qui est peut-être un assassinat, parce que moi, j'avais entendu à la télévision, je ne me souviens plus de la présentatrice, mais à l'époque où l'URSS, vers 90-91, et les archives ont été libérées, et la première nouvelle qu'elle a annoncée, elle a dit « Albert Camus, il y a accident mécanique ». C'est qu'elle a dit au journal télévisé de « et jamais plus ». Je n'en ai entendu parler. Alors, est-ce que c'était de sa part à elle, elle a vite foncé vers un truc peut-être qui n'était pas une bonne piste, ou est-ce qu'on lui a dit, tu écrases, on veut pas que ça soit ça, on ne peut pas t'ennuyer avec la Russie, on ne veut pas, etc. Et c'est un truc que je garderai toujours dans ma tête et qui me fera... C'est pour ça que dans ma chanson, je suis extrêmement... je le dis avec beaucoup de... Mais je le fais sentir.
Avec de la prudence, quand même. Je vois là, justement, les œuvres complètes d'Albert Camus en grand format, dans les vieilles éditions d'époque.
Ça, c'est le plaisir du beau papier.
Au-delà de Camus, est-ce que vous êtes bibliophile ? Est-ce que vous chinez ? Est-ce que vous êtes collectionneur ? Est-ce que vous avez des manuscrits de dingue ?
Non, je ne suis pas bibliophile, non. Mais c'est vrai qu'on aime les beaux livres. C'est vrai que quand je vois un beau livre Camus, j'étais content d'avoir les œuvres complètes. Je pense qu'il manque les carnets. Je ne suis pas sûr qu'il y ait les carnets, parce que c'est très important pour la guerre d'Algérie, les carnets et les cahiers. Je ne suis pas sûr qu'il y ait...
Non, ils n'y sont pas.
Ils n'y sont pas.
Ah, si.
Ils y sont ?
Si. Là-bas.
Oui, parce qu'il dit des choses très intéressantes sur la guerre d'Algérie, justement, parce qu'il est quand même mort en 60, et donc la guerre d'Algérie était commencée depuis 54.
Ah, vous avez des beaux livres, vous avez Rabelais, vous avez...
Tous les
Nerval,
livres.
Nerval, Ovid, dans des vieilles éditions comme ça. Et puis au-dessus, il y a toute la collection de l'histoire de France de Jules Michelet.
Oui.
ce qui représente à peu près une quinzaine de livres.
Hein. Oui, oui.
Vous êtes un fou de Jules Michelet, que je rappelle, c'est un historien qui prenait quelques libertés.
Oui,
mais
un
qui,
peu bon, romancier, quoi. C'est, voilà. Il romançait un petit peu, oui, oui.
Neuvième.
Mais c'est ce qui rend intéressant, d'ailleurs, c'est ce que je considère, si les élèves un peu littéraires, il n'y en a plus beaucoup. C'est ce que je leur conseillerais de lire, c'est Michelet, parce que c'est un auteur abordable. Évidemment, il faut savoir lire quand même, hein. Mais c'est un auteur qui permet de survoler toute l'histoire de France jusqu'à la Révolution.
Là, sur la table, il y a l'anthologie de la poésie française de Jean Oryzet chez Larousse.
Oui, parce Pardon. Que...
Il y a un marque-page. Est-ce que c'est un poème en particulier ? Ou alors c'est...
C'est des trucs que je note. Je note les passages que j'adore.
Ah, génial.
Qui sont des pour moi, des petits chefs-d'œuvre, quoi.
C'est quoi votre préféré ? Est-ce qu'il y en a un que vous relisez sans arrêt ?
Ah oui, il y a des... Oh, les préférés des poètes, c'est difficile. Vous savez, on les aime tous, mais je dirais que forcément, je suis comme les autres. Baudelaire, Rimbaud, quoi, c'est au-dessus du lot, quoi qu'on dise. Mais quand on lit les poètes, ils ont déjà tout dit. Hein. Quand vous prenez les poètes du Moyen-Âge, Villon est un immense poète. Évidemment, c'est écrit dans une langue qu'on ne parle plus. Alors, c'est difficile.
Vous en connaissez des par cœur ?
Je connaissais la balade des pendus par cœur à une époque. Oui. Ah oui, il y avait plein de poèmes que je connaissais par cœur. Oui, oui.
Mais vous n'avez pas trop de poésie dans la mémoire avec toutes vos chansons que vous connaissez par cœur ? Est-ce que c'est... Vous les connaissez toutes encore par cœur ou ça finit par, par s'effacer ? Vos chansons.
Mes chansons, en partie, oui. Les chansons, je les ai beaucoup chantées. Alors, je suis malade, évidemment, je la connais par cœur. Les ballons rouges, j'en connais certaines. Puis après, les choses, il faut les retravailler. Vous savez, chaque fois qu'on reprend je reprenais mon sac à dos, je réapprenais les chansons parce que j'avais arrêté 2 ans, 3 ans. Il fallait repartir à la mémoire, repartir au charbon aussi.
Et la poésie, ça nourrit l'écriture des chansons ?
Ah oui. C'est ça qui vous nourrit complètement. Encore plus que les livres, bien entendu. Dans les livres, vous trouvez des idées qui, tout d'un coup, peuvent vous faire démarrer sur un truc que vous trouvez qui peut s'adapter à une chanson. Mais dans la poésie, c'est le fait de lire de la poésie qui vous incite à écrire des chansons, parce que c'est la chanson, si vous voulez, c'est la poésie en moins bien, quoi. C'est de la poésie populaire. C'est de la poésie qui est faite pour être comprise, pour être entendue, pour être reçue. C'est pas, on fait pas, alors que la poésie se suffit à elle-même, quoi.
Vous avez souligné là un poème de Antoine de Saint-Amand, qui est 16e siècle, 17e siècle, 1594-1661, qui un poème qui est quand même très long, qui doit faire une dizaine de pages, mais vous avez entouré une strophe. Est-ce que vous nous la liriez ?
Bien sûr. Oh, que j'aime la solitude, que ces lieux sacrés à la nuit, éloignés du monde et du bruit, plaisent à mon inquiétude. Et inquiétude,
oui.
Parce qu'il faut faire les pieds.
Bien sûr.
Si vous n'avez pas les pieds, c'est à l'époque, c'était, ils n'écrivent pas n'importe comment, les poètes.
Oui. Sans les pieds, ça se casse la gueule, évidemment.
Oui, voilà. C'est très, très important de dire la poésie comme elle doit être dite.
Je reprends la petite fiche. J'ai note qu'il y a Vassili Grossman, Vie et destin.
Oui, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Et C'est un plaisir très rare, parce qu'à mon âge, on a lu beaucoup, et c'est rare de trouver un livre qui vous touche jusqu'au fond de l'âme, qui aille vous chercher comme un Flaubert, comme un... C'est un très grand livre. Hein. Et ce livre m'a ému, m'a bouleversé. Ça se passe pendant le siège de Stalingrad. C'est toute une histoire très complexe, avec évidemment beaucoup de personnages. C'est toujours le problème avec les livres russes, c'est qu'on a des noms qu'il faut répertorier. Mais c'est un livre merveilleux que je conseille vraiment à tout le monde de lire, parce que c'est un gros livre. Hein.
Faut, oui, alors là, il est en poche, lire. Mais il fait plus de 1000 pages, et vous avez souligné à peu près toutes les pages.
Oui, parce que s'il y a des passages absolument lumineux, extraordinaires, d'une émotion, d'une tragédie. J'en ai vu des choses sur les chambres à gaz, mais ça, il y a un moment, là, dans ce Grossman, il y a une scène avec une femme, avec son enfant, qui va... Mais l'émotion que j'ai ressentie, c'est au-dessus de tout.
Je me rends compte en vous parlant qu'en fait, il y a aussi des photos qui sont un peu disséminées dans la bibliothèque entre les livres. Et à force, je ne regarde plus trop les photos parce que je me concentre sur les livres.
Oui.
Et là, je viens de réaliser qu'il y a en fait des photos cultes, quoi. Là, il y a Brassens avec vous.
Oui, Brassens, bien
avec,
sûr.
Il est avec sa guitare et vous êtes en costume blanc à côté.
Brassens, que j'écoute régulièrement, tout le temps, encore aujourd'hui. Oui, j'ai adoré Georges et j'ai eu la chance de débuter dans un spectacle dont il était la star, la vedette. Et on disait pas star à l'époque, on disait vedette. Et c'était un homme merveilleux, et puis drôle, et puis on a échangé beaucoup. Enfin, c'était un mec bien. Maxime vous en parlera encore mieux que moi, mais le forestier.
Oui.
Mais c'est vrai que Brassens, pour moi, je le place au-dessus de tous les autres. Mais je veux dire, sur la continuité, je pense que s'il y a une œuvre qui reste de chanteur, ça sera Brassens.
Et de poète, on y revient.
Oui. De vrai poète, parce qu'il a manié toutes les langues. Il parlait presque en vieux français. Il prenait donc il est indémodable dans le sens profond du terme. Et parce qu'il est de toutes, il a su respirer toutes les choses. Et ben, j'adorais Brel, bien sûr. Vous savez, il y a les Bécaud, Aznavour, Brel, Brassens. Ça a été une époque extraordinaire. Nous, on est arrivés, on était adossés à des géants, des mecs qui avaient déjà tout fait, tout dit, tout écrasé. Alors, il a fallu qu'on se taille un petit truc au milieu de tout ça. Ça n'a pas été simple. Hein. Alors d'ailleurs, on a fait de la chanson populaire. Sardou et moi, au départ, on était deux chanteurs populaires. Et puis peu à peu, moi, je me suis un peu... J'ai mis de plus en plus de chansons un peu plus élitistes dans mon tour de chant. Et puis, ça a fonctionné. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas en mettre 20 000.
Chanson élitiste ?
Une chanson plus complexe, avec des choses moins simples que « Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier ». Ça, évidemment, on suit tout. Des choses plus profondes. Et je l'ai fait par exemple, Mon enfance m'appelle, qui est une chanson dans le même ordre, est une chanson qui est d'une facture encore supérieure, je trouve, au Ballon Rouge. Mais elle a eu du succès, mais elle a eu moins de succès, évidemment, que les Ballons Rouges, parce que les gens inscrivent dans le temps. C'est-à-dire que vous arrivez dans leur vie, et ça marque leur vie à ce moment-là. Et les chansons qui arrivent 15 ans après ne marquent pas de la même façon. C'est absolument impossible. C'est presque mathématique. Alors, voilà. Puis j'ai une chanson, J'arrive à l'heure, que j'aime beaucoup aussi, qui était une chanson un peu spéciale, qui n'était pas facile à... Oui. Puis j'en ai écrit des littéraires, carrément. Mais je savais que là, par exemple, dans le 90, il y a un truc sur Moby Dick. Je sais très bien que la plupart des gens ne vont pas comprendre vraiment ce que je dis là-dedans. Mais je le dis, parce que je l'ai dit comme ça, parce que j'aime cette chanson. Et puis que Moby Dick, on parle de roman que j'aime.
Voilà.
Alors voilà.
J'allais venir, pourquoi Moby Dick ?
Parce que Moby Dick, c'est un monument. C'est un livre que j'ai lu 5 fois, au moins. 5 fois, je le lis tous les 4 ou 5 ans, c'est le genre de livre que je lis, ça. c'est y a l'homme sans qualité aussi, mais l'homme sans qualité, il est formidable le premier tome,
de Musil.
Et le deuxième tome, il n'est pas terminé, beaucoup moins bien, ce qui fait qu'on a moins envie de recommencer le premier tome, parce qu'on sait qu'on n'aura pas la continuité de l'œuvre.
Qu'est-ce que vous avez trouvé dans Moby Dick ?
Une quête. C'est une quête que j'ai peut-être au fond de moi, une quête de l'absolu, une quête qui va jusqu'au sacrifice, jusqu'au suicide, jusqu'au... Parce que bon, qu'est-ce qu'il fait d'autre, finalement, en se jetant sur Moby Dick à Cab, que s'anéantir dans... Vous savez, Moby Dick, c'est... Ça veut dire... Dick, ça veut dire le sexe. Dick. Moby Dick, c'est la... C'est... L'abréviation de mother, de mère, et de baby, de baby. C'est-à-dire que c'est s'il y a enfant, mère, sexe.
Ah, c'est une psychanalyse carrément quoi.
Moi je c'est ce que j'ai c'est ce que je comprends.
J'ai jamais entendu parler de ça, c'est super.
Ah oui non mais c'est ce que je ressens quand je lis Moby Dick, c'est ça. C'est une quête de l'ordre. Moi qui ai été en but avec ma mère, par exemple, eh ben je me vois très bien arriver avec un harpon et taper dans le mother, pardon. Le baby tapant dans le mother.
Alors, il y a du Simenon, il y a du Colette, il y a du Sacha Guitry.
Oui, parce que Simenon est un immense auteur.
Bien sûr.
Qui aurait dû avoir le prix Nobel s'il n'avait pas eu une vie dissolue, comme tout le monde le sait. Mais c'est un immense auteur. C'est un auteur qui écrit avec une simplicité apparente, mais qui est extraordinaire, puis qui sait faire sortir tous les traits de caractère, tout le monde. C'est un grand, grand écrivain.
Et puis, qui, comme vous, un peu, a dit un jour « j'arrête ».
Ben, vous savez, il y a un moment, on arrête. Hein.
Il s'est retrouvé devant sa feuille, lucide, il s'est dit « j'y arrive pas, j'arrête ».
Oui, ben, c'est ça. Il y a un moment, c'est la lucidité. On se dit que c'est terminé. Là, je commence à avoir des difficultés à me déplacer qui sont de plus en plus grandes, des douleurs qui sont de plus en plus insupportables. Alors, à partir de ce moment-là, quand on fait ce constat, ben, il faut prendre une décision. Je l'ai prise et elle est irrévocable. Je ne remonterai plus sur scène, c'est terminé. Alors, mon intervention, parler, chanter, éventuellement, ça peut le faire, mais on verra bien. Mais je veux dire que pour l'instant, voilà, c'est comme ça. C'est terminé.
Et ça n'a pas l'air de vous attrister plus que ça, en fait. C'est comme ça, quoi.
Non, parce que vous savez, quand on arrive au bout, eh ben on arrive au bout. C'est vraiment ça. C'est qu'il y a eu une sorte de... Alors, attendez, je suis dans la période où je fais ma promotion, donc j'ai une sorte de vie avec le disque et tout ça. Peut-être que je vais avoir un petit coup de barre psychologique pendant 2 ou 3 mois après, que je les attends. Je sais que c'est normal. Mais non, oui, ça m'attriste pas plus que ça parce que je sais que je ne peux plus le faire. Je ne peux plus rester droit devant un micro pendant 1h30 ou 2h, ou 2h30, à une époque. Je ne peux plus le faire. Alors, chanter assis, pour moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas admettre de chanter assis. Alors, on s'assoit, bien sûr, sur scène, des fois, de temps en temps, bien sûr. Sur scène, je m'asseyais de temps en temps, mais c'était voulu, c'était dans la mise en scène. C'était ce que j'avais prévu dans L'Esclave, par exemple, qui est une chanson un peu élitiste, justement. Je m'asseyais, et j'ai chanté assise. Mais la plupart des chansons, c'était debout, parce qu'on est face au public. Voilà, face au public. Et on ne peut pas être assis.
Et ben, on arrive au bout de cette visite, mais on se reverra.
Ah ben, écoutez, ça sera avec plaisir, parce que c'est agréable de parler des livres, de parler des choses qu'on aime, quoi.
On aurait pu faire 3 heures. Merci beaucoup, Serge Lama. Merci. Et je rappelle, Aimer, c'est le nouvel album de Serge Lama. Merci à lui. Dans un instant, lu et approuvé, l'équipe de chroniqueurs de l'émission vous font des propositions de lecture. À tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix est libre avec Sébastien Bordenave. Pour la bande dessinée, Clémence Pouletti, journaliste littéraire, et notre libraire de la semaine, Amandine Cole, librairie de Paris, à Paris. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et on commence avec vous, Amandine, honneur au libraire, un roman.
Un roman nommé Clara Liproust de Stéphane Carlier aux éditions Gallimard. Et donc Clara Liproust, c'est un court roman d'à peu près 180 pages que j'ai lu tranquillement cet été en vacances en me disant que ça faisait 180 pages, c'était très bien, c'est très léger et que ça ne ferait pas plus.
C'est un argument pour commencer à
Exactement.
Lire.
Et en y repensant 15 jours plus tard, je me suis dit mais c'est vrai que c'était quand même vraiment très bien. Et en fait, c'est un roman absolument formidable, c'est un roman qui est vraiment très bien. Donc l'histoire est celle de Clara qui est coiffeuse. Et donc Clara, sa vie va bien, mais en réalité elle va pas très bien parce que y a rien qui...
Son mec est sexy, mais il est pas très intéressant.
Exactement.
Comment c'est possible?
Mais il y a rien qui rend sa vie vraiment différente en fait. Et un jour, un client oublie le premier tome de La recherche du temps perdu de
Proust dans le salon de coiffure.
Dans le salon de coiffure, et elle se dit, elle sait pas du tout qui c'est, Marcel. Et donc, elle se lance. Et ce qu'il y a d'absolument formidable, c'est que Clara, elle lit Proust comme absolument tout le monde devrait lire les grands classiques de la littérature, à savoir pour l'histoire, pour les personnages, pour les lieux, pour les odeurs,
sans
pour les madeleines.
Sans faire une montagne et tout. Quoi.
Exactement. Et elle tombe amoureuse. Elle tombe amoureuse de tout ça. Et ce jour-là, ça va lui ouvrir un monde. Ça va lui ouvrir à des gens avec qui elle va pouvoir en parler. Parce qu'elle va découvrir qu'en réalité, elle a lu quelqu'un que tout le monde connaît. pas forcément tout le monde a lu, d'ailleurs.
Oui.
Et voilà. Et ça va donner quelque part un sens à sa vie. Ça va l'éveiller à des choses tout en lui permettant de rester qui elle est, tout en restant quelqu'un d'absolument gentil, ouvert, mais qui va s'ouvrir aux autres parce qu'elle-même se sera trouvée. Et moi, un jour, j'ai effectivement eu quelqu'un à la librairie à qui je parlais de ça et qui m'a dit « Ah, mais Proust, ça a changé ma vie d'avoir lu. » Donc voilà.
Et moi, une fois, je visitais une bibliothèque et il y avait La recherche. Mais le type chez qui j'étais m'a dit « Je le garde pour mes 80 ans. » Et je lui ai dit « C'est dommage parce que ça peut servir dans la vie aussi, ça peut ouvrir d'autres portes. » Et il a fait « Ah, tiens, j'avais pas pensé. » Mais c'est un peu la morale de ce livre-là, quoi.
Bah, c'est une morale qui dit que...
Elle voit le monde par Proust, après.
Elle voit le monde par Proust, mais surtout qu'on peut le lire, que ce n'est pas grave et qu'on peut le lire et l'interpréter comme soit on le veut. Et puis surtout, dans cette bibliothèque, il s'est peut-être privé de quelque chose de formidable à dire, c'est que quand on dit qu'on lit Proust, après on peut dire qu'on le relit. Et ça, c'est encore mieux.
C'est vrai qu'on ne lit jamais un classique, on le relit.
Exactement.
Entendu. Clara Liproust de Stéphane Carlier chez Gallimard, qui est un écrivain très très drôle en plus. Exactement. Ça ne gâche rien. Clémence Pouletti, bah tiens, c'est un beau livre cette fois, ce n'est pas un roman.
Un très très beau livre puisqu'il s'agit de Romy Schneider et Claude Sauté, un coup de foudre créatif par Jean-Pierre Lavoignat, avec un avant-propos très émouvant de son fils Yves Sauté, dans lequel on apprend qu'il appelle son père Claude et jamais papa, ce qui m'a beaucoup... J'ai bien aimé ce petit détail. Mais en fait, ce livre est rempli de petites histoires sur donc, la relation si belle entre Claude Sauté et Romy Schneider. C'est un très beau livre avec plein d'images, plein de photos, plein de très belles photos, même des scans, des petits mots que Romy laisse à Claude, dans lequel elle l'appelle Clo, C-L-O. C'est très beau et surtout, c'est tout plein de textes, comme je disais.
Elle ne l'appelait pas Clo, alors.
Comment? Non, c'est seulement Clo. C'est presque des ans. Non, elle l'appelle Clo, elle l'invite. Quand elle vient pas à un dîner, elle le prévient. Quand elle a de le voir, elle lui dit aussi. C'est vraiment... Enfin, on le savait qu'ils avaient une relation professionnelle très fusionnelle. Mais là, j'ai la couverture du livre devant moi et on voit comme elle le regarde, comme elle le regarde avec amour, mais un amour puissant, fort. Et c'est ce qui vraiment se dégage de ce livre que j'ai, dans lequel je passe plusieurs heures depuis que je l'ai. Il est sorti fin octobre et donc je vous le conseille. Il est très beau, très chouette. Et donc, oui, il y a plein d'images de tournage et dont je voulais vous parler.
Mais c'est grand format. Quand je disais beau livre, c'est la catégorie. C'est aussi un livre d'archives avec des photos en noir et blanc.
Noir et
tout,
blanc,
quoi.
Incroyable.
Oui, c'est beau. Je montre à ma voisine.
Il faut expliquer. Montrez
le micro. Alors, donc, au sommaire, vous aurez des détails sur les coulisses de Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs, César et Rosalie, Mado et Une histoire simple. Et donc, comme je disais, il y a beaucoup de textes et notamment des témoignages. Et témoignages donc Isabelle Huppert, Jean Dujardin, Nicolas Mathieu, qu'on connaît bien ici.
Le prix Goncourt.
Kiberlin, oui, François Ozon, Alain Sard, Daniel Biassani. Et Daniel Biassani. Et surtout, moi, je suis fan des commentaires très personnels, des commentaires familiaux. C'est un très beau livre dans tous les sens du terme.
Il y a Amandine Cole qui lève la main comme à l'école.
Oui.
Allez-y.
Parce que c'est pour dire que les films de Claude Sauté, ils sont absolument intemporels.
Oui, tout à fait.
Et qu'il faut absolument les regarder.
quand on tombe dessus.
Vous êtes dans une émission littéraire, mademoiselle.
Oui, mais alors justement, parce que Les choses de la vie, c'est quand même une adaptation littéraire. À chaque fois, on voit qu'il est donc très fan de Faulkner, d'Hemingway. Il est toujours raconté une petite anecdote littéraire par-ci, par-là. C'est très chouette à lire.
Comment ça s'appelle déjà ?
Un coup de foudre créatif.
Romy Sautet.
Ouais.
Et c'est Jean-Pierre Lavoignat.
Aux éditions de La Martinière.
Merci beaucoup Clémence Politi. On termine avec vous Sébastien Bordeneuve et vos bandes dessinées.
Oui, deux BD à forte personnalité. La première est publiée chez Delcourt. Elle s'appelle...
à forte personnalité.
Ouais, vous allez voir. La première s'appelle Retour à l'Éden de Paco Roca. Je ne connaissais pas ce dessinateur espagnol. Je me suis renseigné. Il a commencé en dessinant des récits érotiques de Peter Pan. Rien que ça, ça me l'a rendu sympathique. Et vraiment, vraiment, là, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. C'est du roman graphique sublime, fin, subtil, délicat. Le plus étonnant, c'est que ça m'est plu.
C'est Sépia.
C'est Sépia. Ça amène un petit peu de mélancolie. C'est l'histoire de Antonia, la mère du dessinateur. Elle est au crépuscule de sa vie et sa principale obsession, c'est une photo prise à la fin de l'été 46 à la plage. Cette photo, comme le dit si bien l'auteur, c'est comme un fragment d'ambre refermant un moustique préhistorique, vaillant vestige du passé. La BD, c'est l'histoire de cette photo, de celles et ceux qui y sont dessus, des absents aussi. L'histoire de la famille qui survit en pleine dictature franquiste, le marché noir, la fin d'Antonia, la fin des petits frères, là. Et la maman qui ne prend pas sa part de patates au souper car elle dit « j'ai pas faim ». C'est la narration de ces temps de sacrifice puis des années qui suivent et qui passent avec des rêves qui s'évanouissent. Et vous l'avez dit, c'est en sépia, ça renforce une mélancolie certes un peu triste, mais ça nous rappelle que la vie passe comme un claquement de doigts. Retour à l'Éden de Paco Roca, n'hésitez pas. La deuxième BD, vous lorgnez dessus, je vois. Changement radical d'ambiance, Le meilleur des mondes, c'est un roman dystopique écrit en 1932 de Aldous Huxley, un écrivain philosophe britannique. Le dessinateur qui adapte ce roman, c'est Fred Fordham. Et l'histoire est glaçante, tant elle fout les pétoches, tant elle est crédible. On est en 2540, le progrès est roi, la fécondation ne se fait plus qu'en laboratoire.
Dans des bocaux.
Exactement, imaginez. Les bébés sont ensuite disposés dans une pièce. Quand on leur montre un livre, on leur électrise un peu les fesses, comme ça, ça leur fait passer l'envie de s'émanciper. Une fois adulte, tout le monde se drogue, pas bien, avec un médicament, bien.
Qui rend heureux,
qui s'appelle le Soma, euphorisant, stupéfiant, agréablement hallucinogène. Il a la BD tous les avantages du christianisme et de l'alcool sans les inconvénients. L'écriture de cet ouvrage est un peu cynique, tout le monde s'encourage.
On appelle ça Instagram
de
nos jours.
Oui, bravo. Et en fait, ce livre, c'est la sexualité, c'est un loisir, tout le monde appartient à tout le monde. Pour résumer, c'est l'inverse de 1984, en fait, où c'était l'autoritarisme, c'est une botte qui piétine un visage. Là, ici, le monde est contrôlé, vous l'avez dit, par la distraction qui apporte un bonheur superficiel, qui fait passer l'envie de se rebeller. C'est déroutant et ça fait plus que réfléchir, c'est le meilleur des mondes chez les éditions Phileas.
Et l'auteur, c'est...
En fait, le roman, c'est...
Aldous Huxley.
Exactement, et l'auteur, c'est Fred Fordham.
C'est parfait. Vous avez une citation quand même ?
Oui, j'en ai une petite. C'est la phrase de Léonard, une sorte de personnage pastiche de Léonard de Vinci, dessiné par Bob de Groot.
Ah, ça c'est gentil.
Vous avez demandé de la chercher, je l'ai cherché. Il dit, Léonard, « Tous les arbres du monde ne suffiraient pas à fabriquer le mètre pliant qui servirait à mesurer votre sottise. Elle est incommensurable. »
Il dit ça aux disciples, bien entendu. Merci beaucoup Sébastien. Amandine, on rappelle le titre de votre roman ?
Clara Lee Proust de Stéphane Carlier.
Et Clémence Politi.
Un coup de foudre créatif, Romy Schneider, Claude Sauté.
Merci à tous les trois. Amandine Cole, on vous retrouve à la librairie de Paris, à Paris, place de Clichy. Et Clémence Politi, on vous retrouve sur YouTube. On tape Clémence Politi tout simplement et on voit des vidéos sur la littérature. Et je rappelle, notre invité, c'était Gilles Marchand pour son magnifique Soldat désaccordé, au non moins magnifique édition Les Forges de Vulcain. Merci beaucoup à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission. Grégory Delpech pour la programmation musicale et à la réalisation Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.